Bonsoir. Avec des confrères journalistes, nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité pendant la semaine. Et pour ce soir, deux thèmes sont retenus pour vous, à savoir l'Assemblée nationale a interdit mardi 8 novembre au gouvernement d'amorcer toute initiative visant à intégrer les forces négatives dans les FRDC, la police nationale ou tout autre service de sécurité. La Chambre basse du Parlement a accusé les assaillants de s'être livrés à l'exploitation illicite des ressources naturelles de la RDC et aux violations des droits de l'homme dans l'est du pays. Elle a levé cette option pendant que le gouvernement de la RDC s'apprête à participer dans la capitale kényane pour parler de Nairobi avec les groupes armés pour mettre fin au cycle des violences dans la partie est du pays. Affaire de pédophilie dans les milieux du football congolais, c'est le second terme de la tribune de ce vendredi 11 novembre 2022. Comme vous le savez, la Fédération congolaise de football association FECOFA a annoncé lundi 7 novembre la suspension des 6 entraîneurs cités dans des pratiques de pédophilie dans les milieux du football congolais. L'instance fêtière du football congolais avait institué vendredi 4 novembre une commission pour enquêter sur l'existence d'un réseau pédophile dans les milieux du football à travers le pays. La FECOFA avait réagi ainsi aux révélations sur l'existence d'un réseau pédophile hautement actif dans les milieux du football en République démocratique du Congo à la suite de l'enquête du journaliste Romain Molina publié sur Sport News Africa. Pour débattre de ces sujets, je reçois dans cette émission Walter Nkui. Il est journaliste à Top Congo FM, c'est une radio qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir Walter Nkui.
Bonsoir Madame Kelly Nkouté.
Alain Samuel Tshibata, il est journaliste indépendant. Alain Samuel Tshibata, bonsoir. Alain Samuel Tshibata, vous êtes là? Je crois qu'on l'a perdu. La réalisation va essayer de le rappeler. Et Passion Lufira Debabaï qui intervient depuis Uvira dans la province du Sud Kivu. Il est directeur de programme de la synergie des médias pour l'Union des forces maisons de la presse et secrétaire adjoint de l'UNPC section Sud Kivu. Passion Lufira, bonsoir.
Bonsoir, conseiller Kelly. Bonsoir à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
Merci de nous suivre à Matadi, au Congo central, sur la 102.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, rejoignez-nous sur www.radiocapi.net ou encore sur Canal+, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine. Vous le savez déjà peut-être, la presse congolaise est en deuil. Le journaliste Luc Mikomo Kabongatre est décédé mercredi 9 novembre 2022 au centre médical médecin de nuit ici à Kinshasa où il est hospitalisé pendant quelques jours. Luc Mikomo était un habitué de la tribune de la presse. Il va nous manquer et il va aussi manquer à ses nombreux auditeurs qui les suivaient sur Radio Capi. Nous lui dédions cette émission. Walter Nkui, vous êtes journaliste à Top Congo FM, une radio qui émet depuis Kinshasa. Vous avez connu Luc Mikomo?
Oui, je l'ai connu. C'est un grand frère que j'ai découvert dans une manifestation culturelle de ma province d'origine. On avait, à l'époque, je n'étais même pas journaliste, j'étais encore étudiant à l'université de Kinshasa. Je venais de commencer dans les années 2004-2005. Et on a abordé plusieurs questions politiques parce qu'à l'époque, j'étais très actif dans le militantisme politique. Il lui me connaissait. On a un peu échangé et puis quand je suis devenu journaliste, on a entretenu des très bonnes relations. Et la dernière fois que je l'ai vu, effectivement, il était très malade il y a plus de 8 mois passés. Et il m'a dit que ça n'allait pas. C'est pourquoi il avait presque disparu des activités même de la rédaction, qu'il prenait le temps de se soigner, de se faire soigner. Et quand j'apprenais qu'il est mort, ça m'a vraiment attristé. Nous lui souhaitons un repos éternel et en paix.
Quel autre sujet aimeriez-vous commenter ce vendredi, hormis le 2 que nous avons prévu pour les débats de ce soir?
Que l'on revienne un peu sur l'actualité politique au niveau du Parlement, chambre haute ou chambre basse, parce que après le traitement du budget, comme s'il n'y a plus rien de fait, il y a une une petite léthargie qui est observée au-delà que cette session soit budgétaire. Mais les députés ne doivent pas se cramponner à cette seule matière. Il y a plusieurs choses à aborder. Vous voyez par exemple les inondations. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réactualiser toutes les lois relatives au permis de construction, à la construction, au lotissement de terrain, aussi bien dans la ville, province de Kinshasa, qu'à travers le pays.
Alain Samuel Tibata, vous êtes journaliste indépendant. La presse congolaise est en deuil. On a perdu notre confrère Luc Mikomo Kabongatre. C'est un grand journaliste. Elle est habituée de la tribune de la presse. Est-ce que vous l'avez connu?
Physiquement, je ne l'ai pas connu, mais d'habitude, je suis invité sur Radio Capi. Il intervient ensemble avec moi sur beaucoup de sujets. C'est quelqu'un que j'appréciais personnellement parce que il était brave dans ce qu'il faisait. Il mettait 10 sérieux dans son travail. Et voilà pourquoi, personnellement, je regrette sa disparition. Et je sens que toute la grande famille de presse de la RDC est frappée par la disparition de ces grands hommes des affaires, n'est-ce pas, journalistiques en RDC.
Quel sujet vous aimeriez commenter ce soir?
Ce soir, je voudrais informer la population congolaise sur la tenue d'une convention des entrepreneurs et professionnels chrétiens en RDC qui est organisée ici à Kinshasa sous le haut patronage du ministère de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise. Et cette activité se tient à l'immeuble intelligent et elle commence aujourd'hui, vendredi, et puis elle termine le samedi 19 novembre 2022. Et les intervenants viennent de toutes les provinces de la RDC et actuellement ils sont en train d'échanger sur les notions de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Voilà brièvement la nouvelle que je voudrais partager avec les autres.
Passion Lufira Debaba, vous intervenez depuis Uvira dans la province du Sud Kivu. Vous êtes directeur des programmes de la synergie des médias pour l'Union des forces CIMUF Maison des Presses et secrétaire adjoint de l'UNPC section Sud Kivu. C'est quoi l'actualité aujourd'hui dans la province du Sud Kivu?
Merci beaucoup, consoeur. L'actualité reste dominée par l'adhésion du gouverneur Teongo Abidje Kassi à l'UDPS. Il a été élu gouverneur sur la liste de la FDC. Et aujourd'hui, il est du côté de l'UDPS. Ça défraie la chronique au niveau de la province du Kivu parce que certaines opinions pensent qu'il est en train de fuir les enquêtes liées au détournement des fonds parce que le GF est derrière des enquêtes et probablement il y aura des publications. Mais aussi au niveau de la province du Kivu, on remarque qu'il y a un souci dans la cohabitation entre l'Assemblée nationale et le pouvoir exécutif dans le sens qu'il y a des chuchotements, il y a des voix qui s'élèvent comme quoi il faudrait une motion qui va faire partir le gouverneur. Entre-temps, dans le secteur des médias, nous avons une actualité. C'est les cadres permanents du secteur des médias. C'est un cadre qui réunit à ce jour des acteurs professionnels des médias et les acteurs étatiques. Je parle ici du ministère des médias et communications en province, de la division des communications, de la division des PTNTIC, ARPC, l'ANR. Donc tous les services qui interviennent dans le secteur des médias, ainsi que les structures professionnelles comme la Synergie des médias pour l'Union des forces, la CIMUF, la RATECO, l'Association des femmes des médias du Kivu, ils ont voulu créer ce cadre-là pour créer un cadre d'échange, de dialogue par rapport aux soucis, aux défis du secteur des médias. Nous pensons que à travers ce cadre, les médias pourront trouver une vitrine réelle pour faire passer les plaidoyers.
Premier terme de ce soir, l'Assemblée nationale a voté mardi 8 novembre une résolution interdisant au gouvernement d'amorcer toute négociation avec des forces négatives en vue de procéder à leur intégration, brassage ou mixage. Cette résolution intervient alors que la RDC s'apprête à participer au pourparlers de Nairobi qui devrait s'ouvrir normalement la semaine prochaine mais qui a été reporté à une date ultérieure par le vote de cette résolution. L'Assemblée nationale dénonce l'agression rwandaise et classe le M23 comme mouvement terroriste qui ne mérite pas des négociations avec la RDC. On écoute le rapporteur de l'Assemblée nationale, Joseph Lembi, au micro de Michel Kifinda.
Considérant l'agression imposée à la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise sous les labels du groupe terroriste M23, l'Assemblée nationale interdit au gouvernement de la République de procéder à l'intégration, au mixage, au brassage et ou à toute négociation tendant à intégrer au sein des forces armées, de la police nationale ou de tout autre service de sécurité des éléments ici des groupes armés qui se sont livrés à l'exploitation illicite des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, qui se sont rendus coupables de violations massives des droits de l'homme au préjudice des populations congolaises, qui sont soutenues par des armées étrangères et autres opérateurs économiques mafieux.
Walter Kouy, que pensez-vous de cette résolution votée par l'Assemblée nationale qui interdit au gouvernement d'amorcer toute négociation avec des forces négatives en vue de procéder à leur intégration, brassage ou mixage?
Cette décision de l'Assemblée nationale est arrivée de manière tardive, mais il faut l'encourager et la soutenir, c'est ce que je fais. Je la soutiens parce que si nos services de défense et de sécurité sont à l'état actuel, tels qu'ils sont, c'est à cause de ce système de brassage-mixage qu'on a connu ces 10, 15, 20 dernières années. Je ne pense pas qu'il soit bon de mélanger les professionnels des rébellions avec une armée républicaine. Ça, c'est de un. De deux, tous ceux qui quittent l'armée pour aller faire la rébellion ne doivent pas rentrer dans l'armée. Et pour ça, on ne doit jamais alors jamais négocier. On ne doit pas non plus réintégrer tous ces groupes armés des Maïmaï et tous ces chasseurs qui prennent des fusils, tuent les gens, revendiquent telle autre chose et puis à un moment demandent des négociations pour réintégrer l'armée. Ça, on ne doit pas y arriver. Et cela, comme les députés l'ont voté, doit être marbré pour que plus jamais, que les gens ose une aventure militaire espérant rentrer paisiblement, même royalement dans les institutions. Donc c'est une très bonne décision, c'est une très excellente décision qu'il faut appuyer, qu'il faut maintenir, surtout dans son application. On ne devra pas le lendemain entendre qu'il faut étudier au cas par cas le dossier d'un certain nombre de personnes. Non, cette résolution doit frapper tout le monde, tous ceux qui, au jour d'aujourd'hui, ne sont pas dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo ou des autres services de sécurité.
Vous saluez cette résolution, mais entre-temps, elle intervient alors que la RDC s'apprête à participer au pourparlers de Nairobi. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement ne devrait plus y aller parce que l'Assemblée nationale a voté cette résolution et a interdit au gouvernement toute négociation avec les forces négatives ou toute discussion avec les forces négatives?
Non, mais dès lors que nous disons ou le narratif du gouvernement est que c'est le Rwanda qui sous-traite le M23. La logique veut que nous ne puissions pas négocier avec le M23, que l'on négocie directement avec le Rwanda. Ça doit se passer comme ça. On ne doit, le gouvernement congolais, être mis sur la même table de discussion que les rebelles. Non, moi je ne pense pas. Et tous ceux de nos partenaires aussi bien bilatéraux que multilatéraux qui souhaitent à corps et à cri que le gouvernement négocie avec le M23, moi, je pense qu'ils font fausse route. Si le M23 a des revendications, qu'ils viennent le faire au sein des institutions. Ce n'est pas en prenant les armes, en tuant les compatriotes, qu'on va aboutir à une solution. Non.
Mais les pourparlers de Nairobi ne concernent pas seulement le M23, Walter Kouy. Ça concerne tous les groupes armés qui sont actifs dans la partie orientale de la RDC.
J'ai toujours été contre cette logique de vouloir à tout moment aller négocier avec les gens qui prennent les armes contre leur propre patrie. La RDC est le seul pays à ce jour qui répond à pareil type de revendications. Sassou Nguesso, ici en face, le Congo-Brazzaville, n'est pas allé à Nairobi ou à New York négocier avec les ninjas. Eduardo Dos Santos n'a pas négocié avec UNITA en allant, je ne sais pas, dans quel pays. C'est le cas de lui-même. Le Rwanda n'a jamais négocié avec les FDLR en cherchant un autre pays pour faciliter ses pourparlers. C'est le cas de l'Ouganda qui a chassé Elera et puis les ADF. C'est dans cette logique que moi, j'estime que notre gouvernement doit rester ferme, sévère. Il y a quelques failles dans notre système, dans nos services des renseignements et de sécurité et de défense, mais il faut un peu de dignité, un peu de fermeté pour que cet aventurisme militaire qui date des années 90 soit arrêté. Parce que si on doit continuer à négocier avec les gens qui prennent les armes contre la patrie, je crois que nous n'arriverons pas à consolider les acquis démocratiques et puis à bâtir une nation solide au cœur de l'Afrique.
Alain Samuel Tshibata, journaliste indépendant, quelle lecture vous faites de cette recommandation de l'Assemblée nationale? Alain Samuel Tshibata? Je crois qu'on l'a encore perdu. Sa ligne pose d'énormes problèmes. Avant de retrouver Alain Samuel Tshibata, parce qu'on lui fera des babas, quelle est votre lecture de cette recommandation de l'Assemblée nationale?
Oui, Kelly, je pense que l'Assemblée nationale a voulu alerter. L'Assemblée nationale également a voulu prévenir le fait pour elle de cautionner les erreurs de démarches diplomatiques que le gouvernement nous a mis dedans. Vous vous rappelez que pendant que l'M23 a été défait depuis 2013-2014, j'étais en Ouganda et au Rwanda, le gouvernement sous le leadership du président de la République est parti faire des négociations. Vous avez suivi qu'ils étaient à Kinshasa, l'M23 était à Kinshasa, il y a eu des faits de route signés, il y a eu des accords, il y a eu des promesses faites. Alors, je pense que cette recommandation de l'Assemblée nationale vient en quelque sorte dire à l'opinion nationale que l'Assemblée nationale ne veut plus cautionner, ne veut plus être en quelque sorte un complice qui n'avait rien fait pour prévenir le gouvernement. Je continue à dire ceci, que la recommandation de l'Assemblée nationale, je crois que l'Assemblée nationale devait aller plus loin. Une recommandation reste une recommandation, c'est pas une loi. Je souhaite préciser cela. Je crois que dans les jours à venir, l'Assemblée nationale devra songer à doter à la République des lois et règlements de plus en plus contraignants. Pourquoi ne pas modifier ou compléter carrément les lois et les règlements qui organisent les services de défense et de sécurité, et que cette recommandation soit reprise sous forme d'une loi, soit incluse dans la loi, pour que finalement on se dote des lois qui nous protègent suffisamment face à des menaces étrangères, comme c'est le cas aujourd'hui avec le M23 soutenu par le Rwanda. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, je crois que cette recommandation viendra également renforcer l'idée ou l'initiative du PDDRC que Tommy Tambo est tenté de diriger. Je rappelle que ça fait déjà une année depuis qu'il a été nommé à la tête de cette coordination, pour laquelle nous attendons beaucoup par rapport à ce qui se vit dans les sphères sécuritaires à l'est de la République démocratique du Congo. Le PDDRC ne prévoit pas la réintégration automatique de ces forces négatives au sein de l'appareil sécuritaire de la République démocratique du Congo.
Mais cette structure de Tommy Tambwe peine à décoller parce qu'il n'y a pas de moyens.
Bien évidemment. Et c'est ça le souci. En troisième lieu, c'est que la recommandation de l'Assemblée nationale est venue limiter ce cercle vicieux que nous avons toujours remarqué depuis les années 2002 avec l'accord de Sun City. On remarque toujours, il y a intégration, il y a défection des groupes armés au sein des FARDC, il y a toujours les mouvements insurrectionnels qui se créent, et après il y a négociation, il y a toujours réintégration. C'est un cercle vicieux. Et en continuant avec ce cercle vicieux, nous serons toujours en train de paralyser. Nous serons toujours en train de rendre inefficace l'appareil sécuritaire et à tous les niveaux.
Alain Samuel Tshibata, est-ce que vous êtes en ligne?
Je suis en ligne.
Cette recommandation de l'Assemblée nationale ne risque-t-elle pas d'accentuer la crise et pousser certains groupes armés à retourner dans la brousse parce qu'ils espéraient intégrer les FARDC?
Écoutez, le Parlement qui représente le peuple congolais a pris une position de force par rapport à un adversaire qui est qualifié de terroriste. Et la volonté de tous est qu'on refuse le brassage, le mixage des rebelles dans notre armée. Et cela a affaibli il y a beaucoup de temps notre armée et plusieurs années a déstabilisé toute la RDC. Cette fois-ci, il y a une option claire. Les refus de négocier avec les rebelles ou les groupes armés, les mouvements terroristes, ça c'est une théorie. Mais sur le terrain, qu'est-ce qui sera fait? Parce que, je me rappelle, en 2013, nous avions refusé d'intégrer les rebelles ou les mouvements, n'est-ce pas, rebelles, ou négocier avec ces mouvements, car nous avions vaincu, n'est-ce pas, les M23. Mais cette fois-ci, Mounagana, Routour et les autres, entre les mains des terroristes. La guerre continue d'ailleurs. Au cas où nous serons vaincus, quelle sera l'importance de cette loi? Et je me demande, quel est l'élément nouveau qui est amené dans cette loi? Parce qu'il ne faudra pas que nous soyons hypocrites. Sur terre, moi, j'ai dit ce que je dis parce que j'ai vécu il y a quelques mois à Rutshuru, à Butembo, à Goma, à Beni. Je comprends de quoi il est question dans cette situation. Et que si nos autorités ne mettent pas l'hypocrisie de côté, rien ne sera fait de sérieux. Parce que c'est une loi que je suis d'accord avec cette loi, mais est-ce que cette loi ne risque pas d'être une loi mort-née? D'autant plus qu'il n'y a pas de mécanisme de suivi, il n'y a pas vraiment, comment je vais dire, il n'y a pas un changement à tous les niveaux, parce que cette loi existait il y a longtemps. Qu'est-ce qui amène un élément nouveau dans cette loi? Moi, je suis vraiment perplexe, et je suis un peu réticent par rapport à cette loi. Je ne trouve pas qu'elle soit opportune pour le moment.
Plusieurs Congolais pensent que cette loi va aider la RDC à avoir une armée républicaine et bien structurée, et on n'aura pas à avoir au sein de l'armée n'importe qui.
J'ai déjà entendu Mme Kelly écouter. Et rien n'a changé dans ce domaine. Moi, je me dis, si aujourd'hui le Parlement adoptait cette loi, ou bien promulguait cette loi, est-ce qu'il y aura un élément qui va nous amener l'assurance que notre armée ne sera pas infiltrée? Parce que déjà, moi je connais les gens qui vous disent que au sein de l'armée, il y a les gens qui ne sont pas congolais, qui sont en train de travailler, qui sont les haut placés. Est-ce que déjà un travail de fond a été fait pour pouvoir prendre ce genre de décision? Et je reviens, j'ai pu entendre un collègue qui disait que est-ce qu'il y a les mécanismes de suivi pour que cette loi puisse être consistante? Bon, en tout cas, moi, je pense que cette loi n'a pas vraiment sa raison d'être, et puis qu'on passe à autre chose parce que je ne trouve pas important.
Walter Kouyi, est-ce que cette résolution pourrait aider vraiment la RDC à avoir une armée bien structurée?
Le sérieux dans l'application de cette résolution de l'Assemblée nationale va permettre d'avoir des résultats plutôt sûrs, parce que tout dépendra du sérieux du gouvernement congolais dans les engagements qu'il prend en appliquant les résolutions de son Assemblée nationale, parce que brassage, mixage, intégration, réintégration, on en a vu depuis plusieurs années et plusieurs fois. Les Makenga et tous ces gens-là ont déjà réintégré les forces armées après le RCD, après le CNDP. Combien de fois devront-ils encore réintégrer les forces armées de la République démocratique du Congo? Non. Et constater qu'à chaque fois qu'ils reviennent, ils réintègrent les forces armées, ils n'aiment pas travailler en dehors d'autres provinces que le Kivu, le Grand Kivu. Et quand vient le moment de leur revendication, ils font défection avec armes et munitions du gouvernement. Et cela, c'est récurrent. Donc, on doit se servir de l'expérience du passé pour mieux faire et prévenir une autre défection, une autre rébellion dans l'avenir. C'est pourquoi j'insiste sur la nécessité de faire appliquer cette résolution.
Pastor Lufira de Baba, vous saluez aussi cette recommandation de l'Assemblée nationale, mais que fait-on des groupes armés qui ont accepté de déposer les armes?
Je crois qu'il y a une politique d'intervention, une politique de mise en œuvre de ces programmes que Tommy, les coordonnateurs, tentaient d'expliquer. Donc, il y aura la réintégration dans la vie sociale. Cette réintégration sera accompagnée, par exemple, par un encadrement appuyé, soutenu, accompagné, à travers des structures qui vont réellement asseoir cette intégration dans la vie sociale. Je crois qu'il y a un souci, c'est que jusque-là, nous ne savons pas. Dans les budgets que le Premier ministre a présenté, bon, on n'a pas su clairement déceler qu'est-ce qui a été prévu pour ce programme. Donc, c'est un programme comme on le comprend bien, qui a les yeux braqués vers les partenaires internationaux. Pourtant, sur ce genre de questions, on ne voudrait pas que ça soit des partenaires étrangers qui financent encore de plus un programme qui relève, en tout cas, du pouvoir régalien de l'État. Je crois que quand vous voyez, par exemple, les groupes armés qui sont dans les collines surplombant les villes et territoires d'Ouvira et de Mwenga, ce sont des groupes qui ne sont pas assez structurés comme les M23 aujourd'hui. Donc, c'est des groupes qui pouvaient bénéficier de moins de subsistance et qui pouvaient être encadrés de manière que ça n'expose pas les jeunes gens qui vont quitter dans ces groupes au chômage ou soit au manque d'occupation, parce que pour la plupart, vous trouverez que parmi les raisons qui font ce qu'il y ait la recrudescence des groupes armés, c'est aussi le chômage, c'est aussi la manipulation, c'est aussi des acteurs politiques en mal de positionnement qui ont trouvé un terrain favorable où il y a des jeunes désœuvrés, sans emploi et sans occupation. Et voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ce programme-là. Je ne suis pas d'accord avec mon estimé confrère que je respecte beaucoup, que le fait pour l'Assemblée nationale de prendre une telle position ne va pas apporter une valeur ajoutée dans la lutte contre, dans les renforcements de l'appareil sécuritaire. Je pense que il faudrait arrêter l'hémorragie de l'infiltration. Il faudrait arrêter cette fragilisation de l'appareil sécuritaire de la RDC. Et l'Assemblée nationale, bien que tard, mérite les éloges, mérite les félicitations, parce que tout simplement, nous comprenons que l'Assemblée nationale n'a pas voulu cautionner comme ce fut le cas dans les autres accords.
Deuxième et dernier thème de ce soir, la Fédération congolaise de football, association FECOFA, a institué vendredi 4 novembre une commission pour enquêter sur l'existence d'un réseau pédophile dans les milieux du football à travers le pays. Selon un communiqué parvenu à Radio Capi, cette commission devra recueillir les informations en vue de constituer des pièces à conviction avant d'initier des procédures administratives et disciplinaires conformément au règlement sportif. Dans un autre communiqué publié lundi 7 novembre à Kinshasa, la FECOFA a suspendu préventivement les entraîneurs et encadreurs des jeunes cités nommément dans les allégations des pédophilies et abus sexuels dans les milieux du football en RDC. Enoch Matondo nous en dit plus.
La fin de la semaine passée était mouvementée dans le monde du football. Romain Molina, journaliste français d'Africa Sport News, avait publié dans plusieurs plateformes et dans les réseaux sociaux les résultats de l'enquête qu'il a menée en République démocratique du Congo pendant une année. Des décennies d'abus sur mineurs en République démocratique du Congo, c'est le titre de ce documentaire de près de 20 minutes où le confrère retrace les supplices vécus par les jeunes joueurs congolais ainsi que ceux qui sont encore dans les centres de formation en échange de temps de jeu dans les rencontres sportives. Ces joueurs abusés par soit des dirigeants, des entités sportives, soit par les entraîneurs. Plusieurs noms ont été cités par Romain Molina et cela a fait un véritable séisme à Kinshasa. Au début, la Fédération congolaise de football association avait nié les faits. Un courrier du ministre des Sports coupe court à cette démarche de l'instance fêtière du football en RDC. Serge Chembokonde a demandé à la ministre de la Justice de se saisir du dossier. Un entraîneur parmi ceux cités dans ce dossier, Guy Roger Limolo, a informé notre rédaction sportive qu'il a déposé une plainte contre Molina. De son côté, Bertin Makou a été invité au parquet général hier lundi 7 novembre 2022, à en croire une source de Sainte-Éloi-Loupopo. La suite des résultats de cette enquête sera rendue d'ici la fin de cette semaine. Ce dossier de pédophilie qui éclabousse aujourd'hui le football n'est qu'une partie visible du iceberg. Le football féminin souffre depuis longtemps de ce problème et celui du lesbianisme. Les autres disciplines telles que le handball, le basketball cherchent également un sauveur. Et également les journalistes sportifs hommes. Wait and see, disent les Anglais.
Alain Samuel Chibatar, vous êtes journaliste indépendant. Scandale dans le football congolais ou dans le sport congolais en général. Quelle lecture vous avez de cette enquête menée par le journaliste français Romain Molina, une enquête qui a scandalisé presque tout le pays? Quelle lecture vous en faites?
C'est vraiment malheureux, c'est alarmant et je suis personnellement déçu. Mais c'est pas du nouveau, parce que nous on estime que c'est un élément nouveau qui apparaît, mais en principe, c'est pas une surprise. Ça a toujours été ainsi, mais c'est aujourd'hui que la vérité est révélée. Parce que nous savons que, pas seulement, parce que moi je ne voudrais pas parler dans le milieu footballistique, mais je voudrais parler dans le milieu sportif congolais, vous allez vous rendre compte que non seulement il y a des pratiques sexuelles qui sont interdites, mais aussi les pratiques fétichistes, parce qu'il ne faudra pas qu'on ignore cet aspect des choses. Quand nous parlons de ces pratiques, par moments, ça décourage les parents avec les enfants de faire le sport. Et moi, personnellement, je me suis dit, c'est d'abord immoral de la part de nos entraîneurs qui sont censés être des formateurs. Un formateur, c'est un éducateur qui doit donner une bonne morale aux enfants. Mais quand déjà nous commençons à entendre ce genre de choses, déjà, il y a les pratiques qui visent à faire de, n'est-ce pas, les rapports sexuels avec les petits-enfants ou bien avec les jeunes filles. Pour moi, je pense que l'État congolais doit réglementer le système afin que toute personne, n'est-ce pas, s'il y a une loi qui existe déjà, afin que toute personne qui est impliquée dans ce genre de, n'est-ce pas, d'attitude ou de comportement soit punie, au plaisir, écartée du système. Parce que là, moi je me dis d'ailleurs, moi j'ai honte parce que c'est une enquête qui vient d'un journaliste qui n'est pas congolais. Nous savons que ces pratiques existent depuis longtemps, et quand vous entendez même les témoignages des uns et des autres, c'est qu'il y en a qui refusent de donner l'information, qui refusent de dénoncer par crainte. Soit ils craignent, n'est-ce pas, être limogés, ou ils craignent, n'est-ce pas, être mis dehors. Et ici, Madame Kelly, écoutez, je dois signaler une chose, c'est qu'aujourd'hui, tous les athlètes que vous voyez, d'ailleurs au premier plan, en train de jouer, ce ne sont pas forcément les vrais ou les bons. Il y a beaucoup de choses qui se passent, soit c'est la corruption, soit c'est la concussion, soit c'est le tribalisme, soit, n'est-ce pas, ce sont ces genres de pratiques. Vous trouverez un artiste, un athlète, je l'ai dit, qui travaille bien, qui sait bien faire son travail, mais s'il ne cède pas à ce genre de demande, et carrément, il est mis sur le banc. Et ceux-là qui ne savent pas bien faire les choses, ils excellent parce qu'ils cèdent facilement à ce genre de pratiques. Mais aujourd'hui, on a mis, n'est-ce pas, au grand jour, cette révélation, cette enquête, qui, moi, personnellement, j'ai mal au dos. Quand j'entends ce genre de choses, je me dis, n'est-ce pas, sur le plan moral, nos entraîneurs vraiment méritent d'être mis dehors. Ils n'ont même pas encore le temps de revenir sur terrain pour entraîner nos enfants, parce que nous craignons que toutes nos filles, que tous nos frères et sœurs...
Mais tous les entraîneurs ne sont pas concernés, Alain Samuel Tshibata.
Écoutez, je pense que ce qui s'est dit ouvertement et ce qui s'est fait en pratique, ce sont les deux choses différentes. Je n'ai pas dit que tous les entraîneurs sont immoraux. Je n'ai pas dit ça. Mais presque à un pourcentage élevé, nous savons que dans le milieu sportif, il y a toujours, n'est-ce pas, ce genre de pétrins qui, par moment, découragent. Moi, je connais, j'ai les sœurs, j'ai les frères qui sont sportifs, mais qui disent, mais nous on ne peut pas jouer, parce que soit on met des matchs de sacrifier, de donner les seins humains, soit c'est un garçon qui fait le rapport sexuel avec un entraîneur homme, soit c'est une fille de moins de 18 ans qui doit coucher avec un entraîneur. Tous ces éléments-là décourage les jeunes. Comment voulez-vous que le football congolais, comment voulez-vous que le sport congolais en général puisse émerger pendant que nous avons les encadreurs immoraux?
Après cette révélation, peut-on dire que le foot congolais est en danger, le sport congolais est en danger?
Il est vraiment en danger, et sinon moi aussi, je pouvais créer une association de football congolais ou sport congolais en danger pour vraiment sauver, parce que vous savez, d'ailleurs, cette enquête est publiée dans beaucoup de médias sociaux et beaucoup de n'est-ce pas, de chaînes de télévision, de radio au niveau national et international, et c'est pas seulement, moi je pourrais pas seulement, n'est-ce pas, accuser nos dirigeants congolais, mais aussi dans d'autres pays d'Afrique, parce que la même enquête a été faite au Mali, elle a été faite au Cameroun et dans d'autres pays d'Afrique. Apparemment, la situation est similaire. Mais nous ne pouvons pas prendre les autres comme exemple si c'est dans le mauvais sens. Mais nous, les Congolais, nous devons vraiment être modèles, et que les dirigeants et que les entraîneurs qui sont censés être formateurs s'ébaignent dans l'immoralité. Pour moi, c'est honteux pour mon pays.
Merci Alain Samuel de Tshibata, Walter Nkouyi, journaliste à Top Congo FM, une radio qui émet depuis Kinshasa. Plusieurs langues commencent à se délier depuis la publication de cette enquête de Romain Molina. Ce sont des pratiques qui existent depuis longtemps dans le sport congolais en général et le football en particulier. Mais pourquoi on n'en a jamais parlé?
On s'est malheureusement habitué avec le mal. C'est un cancer qui gangrène le milieu sportif congolais depuis des années. Comme l'a dit le confrère qui vient de parler tout à l'heure, les fins limiers ou même ceux qui fréquentent les milieux sportifs savent que ces pratiques sont très très récurrentes dans nos milieux, sauf que on n'a jamais pris réellement des dispositions pour soit les décourager ou punir les auteurs. Donc moi je crois que l'heure est venue pour que ceux qui sont auteurs soient réellement sanctionnés. Mais je me demande si la fameuse enquête va produire des résultats. Nous savons, nous, dans ce pays, quand on dit enquête, l'objectif c'était pour enterrer simplement le dossier. Donc, on a parlé du milieu de football, mais c'est le cas dans le handball, le karaté, le judo, presque tout, dans tous les sports en République démocratique du Congo. Le fétichisme, le sexe, toute pratique qui n'a rien à voir avec le sport en soi, sont presque devenus le mode de vie des entraîneurs, des chefs de clubs ou des promoteurs des clubs et différents mécènes évoluant dans le milieu du sport congolais. C'est très triste, mais je pense qu'il faut des sanctions sévères.
Quel genre de sanctions, par exemple?
Il faut définitivement exclure ces gens qui sont impliqués de toute activité liée au sport. Et au-delà, il faut aussi la prison. Donc, outre la prison, ces gens ne doivent plus agir ou opérer dans le milieu de sport. Qu'on ne dise pas que ce sont des innocents ou il faut attendre les enquêtes. Non, les gens ont témoigné. Les gens ont témoigné. Moi, je me rappelle, en 2016, une dame qui devrait participer au championnat de karaté est venue me voir, me posant le même problème. Il devrait voyager, la fédération, mais on lui a exigé les services sexuels en contrepartie de son voyage. Alors qu'elle avait des performances en termes de sport, elle a manqué d'aller en compétition au niveau international parce qu'elle a refusé de céder. À l'époque, j'avais soulevé le problème, j'ai vu certaines autorités du milieu sportif, mais apparemment, ce sont des gens qui m'ont donné l'air de se couvrir. Et nombreux, comme vous avez posé la question à l'ami, que tout le monde n'est pas fautif, moi je dirais que tout le monde est fautif parce que tout le monde, ou nombreux, pêchent par omission. Ils voient, mais ils ne dénoncent pas. C'est ça le problème. Alors, ceux qui ne dénoncent pas, on doit les sanctionner. Parce que vous ne pouvez pas être directeur sportif, directeur technique d'un club sans être au courant que l'entraîneur ou tel autre monsieur cherche ou voudrait demander tel type de service aux athlètes. Non. Généralement, ils le savent et ils pêchent par omission. Ce n'est pas un fait nouveau, mais nouveau du fait qu'il a été révélé au grand public, mais tous ceux qui fréquentent le milieu sportif savent aujourd'hui qu'une dame, pour voyager, il faut servir ou céder, comme on le dit dans le langage courant des Quinois. Il faut céder, si pas céder. Et ce qui est bizarre, ce n'est pas l'argent que ces gens-là demandent. Ce sont des services corporels qu'ils demandent ou des sacrifices mystiques, donc le sang humain.
Et alors, moi, après je ne pense pas que c'est de cette manière qu'on doit... Après toutes ces révélations, Walter, oui, vous pensez que ça pourrait prendre peut-être mettre fin à ces pratiques dans le sport congolais?
Je pense que ça ne va pas définitivement mettre un frein, raison pour laquelle moi je souhaite des sanctions sévères, exemplaires, la prison et puis le bannissement définitif, le bannissement à vie de tous ceux qui sont auteurs de toutes ces infractions que le journaliste qui a fait l'investigation a révélé et des pratiques que nombreux fréquentant le milieu sportif connaissent.
Merci Walter Nkoui. On va clore ce débat avec vous parce qu'on le fera des babas. Vous intervenez depuis Ouvira dans la province du Sud Kivu. Vous êtes secrétaire adjoint de l'UNPC et directeur des programmes de la synergie des médias pour l'union des forces Simouf Maison des Presse, Maison de la Presse, voilà. Alors, votre point de vue sur ces révélations qui ont scandalisé le pays.
Les faits sont vraiment très graves. Ça ne fait pas la fierté du football congolais. Ça jette de l'opprobre sur les talents et compétences jusque-là enregistrés dans ce secteur-là. Et moi, je pense que ça doit interpeller. Interpeller dans ce sens où les faits sont connus mais il a fallu que un média étranger l'édifice ou soit un journaliste les fasse. L'occasion aussi de dire merci et de donner nos encouragements et félicitations à ses confrères journalistes qui, quand même, a fait ce travail et qui aujourd'hui sera tributeur de plusieurs réformes dans le secteur sportif, on l'espère. Mais Kelly, écoute, je souhaite relever une chose. La République démocratique du Congo dispose d'une loi qui lutte contre les violences sexuelles. Mais malheureusement, au lieu de capitaliser cet acquis juridique, le gouvernement congolais n'a pas pensé à faire en sorte qu'il y ait une politique, de faire de la politique de lutte contre les violences sexuelle, une approche transversale dans tous les secteurs, dans tous les domaines de la vie publique. Ce que nous connaissons aujourd'hui dans le secteur du football pourrait nous interpeller, par exemple, dans d'autres secteurs, notamment les universités, les écoles secondaires, l'armée, la police, les domaines musicaux ou artistiques, et j'en passe dans tous les autres secteurs. Nous devons dire et reconnaître que la vérité a été étouffée dans les sphères qui dirigent le football. Je crois que les responsabilités méritent d'être bien identifiées, qu'il s'agisse au niveau du ministère des tutelles, qu'il s'agisse au niveau de la FECOFA, qu'il s'agisse au niveau des clubs et des managers, ainsi que les entraîneurs. Vous allez vous rendre compte que ça étouffe les talents. Beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'attention. En tout cas, tout porte à croire qu'il peut y avoir ce genre d'allégations dans les clubs au niveau des provinces. Donc, je crois que il faudrait des sanctions sévères, non seulement pour les clubs, pour les entraîneurs. Je crois qu'il faudrait aussi des réformes profondes dans la gestion des clubs. Il faudrait que désormais le gouvernement qu'il y ait des textes qui vont clairement dire que tout club qui ne va pas prendre qui ne devra pas avoir en son sein des mécanismes internes de lutte contre les violences sexuelles ne devra pas, par exemple, compétir. La FECOFA devra prendre des mesures nécessaires pour imposer aux différents clubs qui vont participer aux compétitions, c'est-à-dire au niveau local, provincial ou national, d'avoir des politiques internes, d'avoir dans leur agenda des politiques qui sont de nature à lutter contre ce genre de pratiques. Merci. Mais aussi, rapidement, la question qu'il faut se poser, comment sont recrutés ces entraîneurs? Vous allez vous rendre compte que ces entraîneurs sont perçus comme des petits dieux dans des clubs. Les managers les recrutent et laissent la latitude aux entraîneurs de faire tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de mesures d'accompagnement, il n'y a pas de staff qui sont peut-être outillés dans les domaines au-delà du renforcement des capacités techniques, mais plus des capacités morales. Donc je crois qu'il faut une réforme profonde dans le secteur. Et les enquêtes que nous venons d'apprendre, nous sommes devenus un pays où les enquêtes n'aboutissent jamais. Je crois qu'il faut des sanctions, au besoin des procès, parce que quand vous lisez l'article tel que publié par le journaliste Romain Molina, vous vous rendez compte qu'il y a celle-là qui était prêt à témoigner. Il faut des mesures de protection des témoins.
Il faut conclure, patient.
Il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui ont témoigné, qui se sont donné le courage de citer des gens, soient inquiétés, parce que ça sera le cas. Ceux-là qui ont témoigné, qui ont dénoncé, seront menacés par leur club.
Merci, patient Lufira Debaba, Tribune de la Presse, c'est fini pour ce soir. Merci à Jean-Noël Mokondo, qui était à la mise en onde de présentation et coordination, Kéline Couté. Bon week-end chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.